Dominique Moul.
Bonjour.
Alors, nous allons parler de votre dernier film, de 637. Nous avions déjà eu l'occasion de nous entretenir par téléphone pour d'autres films. Et vous aviez fait sensation il y a 3 ans avec La Nuit du 12, avec ce film qui avait vraiment raflé après plein de prix au César. Sensation à Cannes Première. Et cette année, vous étiez en compétition avec le dossier 137. Dossier 137 qui s'attaque à une institution un peu opaque, qui reste hermétique pour la population. Est-ce que c'est ça qui vous a intrigué en vous attaquant à cette institution qu'est l'IGPN, la police des polices ?
Oui, enfin, disons que le film ne s'y attaque pas, enfin, il s'y intéresse, disons.
Il s'y intéresse. Non, le mot est mal choisi.
Il s'y intéresse et c'est vrai que ce qui... Oui, c'est une institution qui m'intrigue depuis longtemps parce qu'il n'y a jamais eu de film ou de roman de polar dont l'IGPN est le sujet. Et c'est vrai que le fait d'imaginer des policiers ou des policières enquêter sur d'autres policiers, je trouve ça assez passionnant et fascinant, enfin d'autant plus quand c'est lié à des affaires de maintien de l'ordre plutôt qu'à des affaires de corruption, parce que le maintien de l'ordre soulève aussi la question du rapport entre la police et les citoyens, donc c'est ce qui m'intéresse. Enfin, une des choses qui m'intéresse en tant que réalisateur et en tant que citoyen aussi. Et la particularité des enquêtrices et des enquêteurs de l'IGPN, c'est qu'ils sont dans une position assez inconfortable parce qu'ils sont plutôt mal aimés par le reste de la profession et aussi critiqués par certains médias et une partie de la population qui leur reproche d'être jugés partis et de ne pas enquêter de façon impartiale. Donc je trouvais que d'imaginer une enquêtrice de la police des polices dans cette position inconfortable est un bon point de départ pour une fiction.
L'enquêtrice en question, c'est Léa Drucker, qui vraiment est magnifique dans cette interprétation. Et d'ailleurs, on sent justement la difficulté qu'elle rencontre par rapport aux policiers qu'elle doit interroger, où elle est un peu jugée comme traître.
C'est ce que je disais, les policiers de l'IGPN qui avant étaient souvent dans d'autres services, parce qu'on commence pas sa carrière à l'IGPN, il faut être passé par d'autres services pour connaître le travail de la police, sont mal aimés par leurs collègues et en partie considérés comme des traîtres qui, par leurs enquêtes, discréditent l'institution policière, alors que qu'en fait c'est l'inverse, c'est le fait de pointer des dysfonctionnements qui font que l'institution policière peut éventuellement avoir une meilleure image.
Et comment vous avez eu le sésame? Est-ce que vous avez montré patte blanche pour accéder avec votre caméra?
J'ai fait une demande auprès du ministère de l'Intérieur pour faire une immersion de quelques jours à l'IGPN, enfin à la délégation parisienne de l'IGPN, donc pour pouvoir observer les enquêtrices et les enquêteurs dans leur travail. Et donc j'ai eu la chance d'obtenir l'autorisation de le faire aussi parce que la directrice de l'IGPN de l'époque était pour la première fois une magistrate et pas une policière et qu'elle avait envie de rendre l'institution un peu moins opaque, mais j'ai pas dû montrer patte blanche du tout. Enfin, disons que une des choses qui m'a aidé, c'était La Nuit du 12, qui parle aussi de la police, même si c'est de la police judiciaire, et qui a été plutôt bien reçue par beaucoup de policiers aussi. On voyait bien que ma manière d'aborder ces questions-là n'était pas une façon polémique, mais une manière en questionnant les choses, en essayant de comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver à certains dysfonctionnements. Donc bref, on m'a rien demandé, enfin ni lecture du scénario, ni rien du tout, donc j'ai pu pendant quelques jours librement observer tout ce que je voulais et discuter, échanger avec les enquêtrices et les enquêteurs. Donc ça, c'était évidemment très précieux, mais au-delà de ça, j'ai aussi fait tout un travail de documentation et de recherche par ailleurs, enfin notamment sur les affaires emblématiques de violences policières durant les Gilets jaunes, et aussi des rencontres avec des avocats, avec y compris des avocats qui spécialisaient dans la défense de policiers ou familles de victimes ou autres, donc pour essayer d'avoir une vision la plus complète possible de ces questions-là avant de m'attaquer à l'écriture du scénario avec mon camarade Gilles Marchand.
Justement, vous venez de parler de votre camarade de longue date avec qui vous écrivez à quatre mains. Comment fonctionne votre manière d'écrire les scénarios ?
Il y a beaucoup d'échanges verbales, enfin on discute beaucoup, on évoque des hypothèses, il y a des choses qui se cristallisent assez vite, enfin par exemple l'idée que toute l'enquête serait racontée du point de vue d'une enquêtrice de l'IGPN, le fait que les images, les vidéos allaient avoir un rôle très important dans l'enquête, parce que c'est quelque chose que j'avais constaté lors de mon immersion et ce qui ressortait aussi de plusieurs enquêtes. Donc voilà, donc on évoque des hypothèses, on essaye de construire les choses petit à petit, mais pas, comment dire, enfin... Il n'y a pas vraiment de méthode, c'est-à-dire parfois on peut commencer à écrire très tôt une scène dialoguée, assez détaillée, dont on ne saura pas encore exactement à quel moment de l'histoire elle va se situer, mais qui nous donne aussi des pistes de réflexion pour la suite. Et voilà, donc le scénario pousse comme ça de façon organique. Parfois on se répartit des scènes à l'écriture, après on se les échange, on s'en en parle, on les corrige. Voilà, c'est vraiment un travail où on est pendant plusieurs semaines à deux dans une pièce et à écrire et à échanger sur le travail.
Oui, il y a une émulation entre vous deux. Il y a un travail particulier qui flirte avec le documentaire presque dans le montage. Vous alternez justement les entretiens ou les interrogations de l'enquêtrice, ces questions plus personnelles au niveau familial, également des scènes liées à malheureusement ce qui s'est passé. C'était une volonté de cette alternance pour justement avoir un côté un peu documentaire.
Alors moi, je ne formulerais pas ça comme ça, je ne dirais pas que ça flirte avec le documentaire, c'est très documenté, très recherché, et ça, voilà, ça explique la complexité de toutes ces questions, mais c'est une fiction, nous l'avons construit comme une fiction, enfin l'idée c'était de captiver le spectateur du début à la fin, de qu'il s'identifie avec l'enquêtrice, qu'avec elle il ait envie de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire, d'identifier les coupables, etc. Et après il y a des procédés de montage, mais qui peuvent être employés en documentaire ou en fiction, mais en tout cas pour moi c'est, même si c'est basé sur cette recherche et sur des faits réels, c'est une vraie fiction. Enfin, tous les comédiens, tous les personnages sont interprétés par des comédiens, tout est extrêmement écrit et précisé à l'avance. Voilà, donc je dirais que c'est un film de genre, un polar très documenté.
Comme vous l'avez fait très bien.
Question sociétale.
Comme vous l'avez fait très bien, vous me l'avez prouvé tout au long de votre filmographie. Vous avez choisi le contexte des Gilets jaunes. C'était important pour vous de revenir sur cette période qui, en particulier, mettait à mal le droit de manifester des citoyens.
Oui, c'était important pour moi parce que, enfin, d'une part, avec le recul, ça me semblait plus simple. C'est compliqué de faire les choses à chaud, et d'ailleurs pendant le mouvement même des Gilets jaunes, je me suis pas dit qu'il faudrait que je fasse un film sur qui parle de ce mouvement. C'est vraiment venu dans un deuxième temps, et aussi parce que quand on s'est lancé dans ce projet, plus personne n'en parlait, alors que c'était un mouvement que personne n'avait vu venir, qui avait secoué la France entière et branlé le gouvernement, et qui avait été l'expression d'une fracture sociale et d'une déconnexion forte entre Paris, centre du pouvoir, et de zones rurales ou périurbaines où les habitants ne se sentaient plus pris en considération et avaient envie d'être vus.
Et entendu.
C'est un mouvement inédit qui fait partie de l'histoire de la France, mais après il y a le Covid qui a passé comme un coup d'éponge, et par la suite, alors que les problèmes subsistaient et existent toujours, on n'en parlait plus. Donc ça me paraissait effectivement important de revisiter cette période à travers cette enquête policière.
Et qui permettait aussi des rebondissements pour votre intrigue.
Oui, tout à fait, parce qu'une des choses frappantes dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que beaucoup de Gilets jaunes avaient des origines sociales et géographiques même semblables à ceux de beaucoup de policiers. Milieu plutôt modeste, de zones rurales et périurbaines. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes pensaient que les policiers allaient être de leur côté, parce que on défend aussi leur pouvoir d'achat, et le gouvernement a eu peur d'une contagion. Et cette proximité nous a en effet permis d'intégrer un ressort dramatique, dramaturgique qui nous semblait intéressant, à savoir que l'enquêtrice Stéphanie Bertrand, qui interprète Léa Drucker, soit originaire de la même ville que la famille de manifestants, enfin, ce qui crée un lien très tenu, mais un petit lien quand même qui nous semblait intéressant à explorer.
Et à propos de Gilets jaunes, vous êtes né en Allemagne. Est-ce que vous avez suivi le mouvement en Allemagne, qui était très discipliné? Moi, ça m'avait marqué à Berlin. Quasiment, on aurait dit un défilé de la fête nationale, tellement ils étaient disciplinés, pas de débordement. C'était très différent de la France, mais ils ont aussi manifesté pour les droits aux allocations, les droits des familles. Avez-vous suivi aussi le mouvement en Allemagne?
Alors, je n'ai pas spécialement suivi en Allemagne. Après, ce qui est vrai, en tout cas, c'est que la conception, la doctrine du maintien de l'ordre, enfin, si on veut parler de ça aussi, est très différente en Allemagne qu'en France. En France, c'est vraiment uniquement basé sur la répression et d'ailleurs la police ou la gendarmerie française est très militarisée, très très armée, enfin beaucoup plus que les polices d'autres pays européens, ce qui pose quand même question. Donc c'est vrai que c'est intéressant de comparer le fonctionnement des polices liées au maintien de l'ordre dans les différents pays.
Mais comme vous avez dit, quel que soit le pays, même si c'est beaucoup plus discipliné dans notre pays, c'est quand même une fracture sociale importante qui est aussi symptomatique de notre société et de ce que l'on vit actuellement.
Ah bah oui, bah bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, ça, sur la fracture sociale, ça n'a rien changé. Enfin, les écarts se creusent. Et il y a toujours une tendance du côté des politiques de pointer du doigt les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent en disant que c'est des assistés, des feignants, etc. Mais on ne remet jamais en cause le fait que il y a des personnes qui ont des fortunes complètement indécentes et qu'on n'ose pas
imposer,
qui n'ose pas demander la contribution qui devrait être la leur pour le pays.
Et par rapport à la photographie, il y a un travail tout particulier sur l'image. Pouvez-vous nous parler de la personne avec qui vous collaborez?
Le directeur de la photo s'appelle Patrick Girangeli. Ça fait la quatrième fois qu'on travaille ensemble. Alors il y a ce qui est assez particulier dans ce film, c'est que ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de vidéos, mais de nature très différente, qui vont alimenter l'enquête, donc qui permettent à l'enquête d'avancer. C'est ce qui m'avait frappé quand j'étais à l'IGPN, de voir les enquêteurs passer beaucoup de temps à scruter ces vidéos de caméras de surveillance de la préfecture de police, vidéos de tournées par des manifestants avec leur smartphone, vidéos de surveillance de commerce, vidéo de journaliste, pour essayer de trouver des éléments, et parfois au fin fond d'images, des éléments qui pourraient faire comprendre ce qui a mené à une blessure ou à une plainte. Et donc ces vidéos, on les a en grande partie tournées nous-mêmes, reconstituées nous-mêmes et filmées avec les vrais outils, c'est-à-dire que quand c'est des images smartphone, on les a tournées au smartphone, etc. Et donc ça donne comme ça une diversité de matière qui est très intéressante. Et puis sinon, enfin en termes de mise en scène et d'image, enfin c'est assez assez précis et en même temps simple, parce que comme il y a beaucoup de face à face, beaucoup d'auditions et d'interrogatoires, et que c'est deux personnes face à face, il n'y a pas 50 façons de filmer ça, donc c'est beaucoup en champ contre champ, mais la tension, elle vient alors du montage, mais aussi évidemment de la façon dont ces scènes sont écrites, et encore plus de l'incarnation, du jeu des comédiens qui sont tous. Léa Drucker bien sûr en tête, mais toute la troupe de comédiens autour d'elle sont également excellents.
Exceptionnel. Et justement, à propos de votre collaboration avec Gilles Marchand, est-ce que quand vous écrivez, vous avez déjà en tête les comédiens, les comédiennes que vous allez solliciter ?
Alors, on n'écrit jamais pour quelqu'un, ça je ne l'ai jamais fait, mais c'est vrai que pendant l'écriture, à un moment donné, j'ai commencé à penser ou à imaginer Léa Drucker dans le rôle, et après, j'arrivais plus à me la sortir de la tête, et j'entendais même sa voix et son intonation quand j'écrivais des dialogues. Et voilà, et donc une fois que la première version dialoguée du scénario était prête, je me suis empressé de lui proposer. Et elle a accepté tout de suite, et j'en suis évidemment ravi. Elle est magistrale.
Et magistrale à l'écran, le résultat est très 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 impressionnant. On imagine que vous allez nous voir rafler plein de prix à la prochaine cérémonie des Césars. On vous le souhaite.
On attend déjà la sortie. Enfin, l'important, c'est que déjà les spectateurs aillent voir le film. C'est plus important que les prix.
Et à propos de l'IGPN ou de la police en général, quelle était la réaction pour ce film, pour ceux qui l'ont vu ?
Alors, ceux qui l'ont vu l'ont beaucoup apprécié. Enfin, on a fait déjà beaucoup d'avant-premières. Il y a aussi des policiers hors IGPN qui l'ont vu, qui sont venus le voir et avec qui j'ai pu échanger et qui l'ont tous apprécié parce que ce n'est pas un film manichéen, c'est un film qui nomme les choses, enfin qui n'a pas peur de dire que les violences policières existent, mais sans pour autant jeter l'opprobre sur toute la police et qui essaye de faire comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver à ces violences et qui en même temps raconte aussi de façon très à la fois réaliste et tendu le travail d'une policière de l'IGPN. Ça a été valorisé par des spectateurs policiers.
Et votre présence en compétition à Cannes cette année, après avoir été présenté pour la nuit du 12 à Cannes Première, vous vous sentez bien sur la croisette ?
Bon, c'est pas mon environnement préféré, mais pour un film c'est super parce que c'est une rampe de l'or. Enfin, quand ça se passe bien, et pour la nuit du 12 et de Fièvre en 37, ça s'est très bien passé, c'est une très belle rampe de lancement pour un film qui, voilà, il y a une attention médiatique forte, on voit déjà la réaction d'un public, même si c'est un public un peu particulier, mais aussi des professionnels, des exploitants, tout ça c'est très important, et puis ça crée aussi une curiosité qui ensuite va aider le film, et je pense que là le film est effectivement très attendu.
Très attendu, et la presse était aussi très enthousiaste déjà à Cannes, donc le public est d'autant plus impatient. Peut-être encore un mot par rapport au dossier 37 qui sort sur les écrans bientôt. Vous, 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 votre expérience en tant qu'observateur à la Bourdieu auprès de l'IGPN, ça vous a changé votre regard aussi ou vous aviez un regard neutre en y entrant ?
Je n'avais pas un regard neutre, j'avais des curiosités, enfin j'avais des questions, je me posais des questions sur la motivation, enfin qu'est-ce qui fait que des policiers décident à un moment donné d'aller à l'IGPN, est-ce qu'ils se sentent investis d'une mission, j'ai constaté que non, en fait, que souvent c'est pour d'autres raisons, d'horaires plus réguliers ou parce que c'est le seul poste qui était disponible lorsqu'on veut changer de secteur et qu'il faut trouver une place qui correspond à son grade. Donc personne n'y va vraiment volontiers ou la fleur au fusil parce qu'ils savent que c'est mal vu par les autres policiers. Mais après, la plupart de celles et ceux avec qui j'ai discuté et qui travaillent se sont rendus compte que c'était aussi de l'enquête et que c'était important de le faire. Ça c'est une des choses que je ne savais pas et qui était intéressante à observer.
Par rapport à
il va falloir qu'on arrête
parce qu'on
avait 20 minutes et j'ai un deuxième appel d'un de vos...
Je vous remercie chaleureusement pour l'entretien. Merci de nous avoir parlé de ce film auquel nous souhaitons un plein succès aussi en salle avec le public. Merci Dominique Moll.
Merci à vous, merci beaucoup.
Merci, au revoir.